On va passer à la parole de Dieu et je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, Esther chapitre 4. Nous allons faire une lecture dans le verset 10 à verset 17, puis le verset 3. Esther 4, 10. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin ce sujet qui dit: quand la prière est au cœur des événements, elle domine les situations. Quand la prière est au cœur des événements, elle domine les situations. Nous trouvons dans la Bible quelques fameux versets par rapport à la prière. Et que bien souvent, parfois, et on ne fait pas tellement trop d'attention. Et peut-être on peut comprendre souvent ces versets, peut-être dans tout un autre contexte, sans de les prendre dans le contexte d'une persévérance dans la prière. Donc, tout d'abord, nous trouvons dans le psaume 20, des fameux versets par rapport à des souhaits pour ceux qui prient, des bons souhaits. Tel que le psalmiste David, il dit dans le psaume 20, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. C'est un fameux verset par rapport à l'exaucement de la prière. C'est un souhait qui nous invite à chercher Dieu au moment de la détresse, puisque c'est un souhait de la Bible pour que l'Éternel nous exauce au moment de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Crée du sanctuaire, il t'envoie du secours, et que des sillons, ils te soutiennent. Mais ce qui est plus fort encore, c'est le verset 5 qui dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Cependant, nous trouvons aussi un fameux verset dans la parole de Dieu qui est une puissante sollicitation de Dieu à le chercher par la prière. C'est un fameux verset par rapport à la prière et que parfois on ne prend pas trop d'attention de ce verset par rapport à la prière. C'est dans le dernier livre de la Bible ou le seul livre typiquement prophétique du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, où le Seigneur lui-même, de cette parole prophétique qu'il a confiée à Jean pour donner à l'église de Laodicée, qui était dans un déclin spirituel. Et le Seigneur sollicite cette église à le prier. Et comment il a sollicité cette église? C'est lorsqu'il a dit à l'église d'Odyssée, « Voici moi-même, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comment je peux ouvrir la porte de mon cœur? Comment je peux ouvrir la porte au Seigneur que si ce n'est que par la prière? Et cette porte que le Seigneur est en train de frapper, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est la porte de votre cœur que le Seigneur nous sollicite à le chercher. Et on trouve cette parole où un puissant prédicateur de réveil, Charles Finney, il a parlé de deux agents de réveil. Et il dit, pour qu'un réveil puisse produire dans la vie de quelqu'un, ou la vie d'une communauté, ou dans la vie d'une région, il y a deux agents qui doivent entrer en action. Il dit, premièrement, c'est la parole de Dieu qui doit toucher le cœur de l'homme, et la prière qui va toucher le cœur de Dieu. Et lorsque la parole touche le cœur de l'homme et l'amène à la repentance, à le motiver de retourner à Dieu ou de sortir dans un état de sommeil spirituel, le peuple de Dieu ou l'homme de Dieu commence à chercher Dieu par la prière, la parole fait de l'impact sur le cœur de l'homme et la prière des enfants de Dieu fait de l'impact sur le cœur de Dieu. Et lorsque ces deux agents rentrent en action, il doit avoir un réveil qui va se produire. Quand le cœur de l'homme est touché par la parole de Dieu, il cherche Dieu. Et quand l'homme cherche Dieu, Dieu déverse sa bénédiction. Dieu déverse son onction. Dieu déverse sa délivrance. Dieu déverse sa puissance dans la vie de l'homme. Et tous ceux qui peuvent remarquer, tous ceux qui peuvent observer la vie d'une communauté de Dieu, ils vont voir la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu et le pouvoir de Dieu qui agit parmi son peuple parce que le peuple de Dieu cherche le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous éterniser pour expliquer des mots grecs et hébreux en ce qui concerne de la prière. Mais nous aimerions nous éterniser de préférence à témoigner de façon personnelle de moi ce que j'ai vécu par rapport à la prière dans des circonstances difficiles et que j'avais cherché Dieu. Mais tout d'abord, nous voulons prendre un exemple. Je vais prendre un exemple sur Esther. Qui pourrait dire à l'époque d'Esther, s'il y avait un observateur, s'il y avait un journaliste qui observe ce qui allait se passer au peuple d'Israël, après l'édit du roi, qui pourrait dire un roi qui a fini d'annoncer un édit, qui a fini d'annoncer un ordre, qui a signé avec son anneau que Mardoché et tout le peuple juif devrait exterminer à telle date et que tout le monde devrait se préparer pour exterminer toute la race juive qui se trouvait dans cette période, dans cette région du roi Cyrus. Mais cependant, lorsque l'édit a été annoncé, ce peuple qui connaît déjà la grandeur de Dieu, étant dans une terre étrangère, mais qui connaît ce que Dieu a l'habitude de faire pour leurs ancêtres, pour Abraham, pour Jacob, pour Isaac, pour tous les hommes de Dieu à l'époque dans l'histoire d'Israël. Donc, ils ont eu une seule intention. Dans cette situation, personne ne peut rien faire pour nous. Il y a des situations qu'on se trouve. Même votre père, même votre mère, même tous ceux qui vous entourent, vos amis qui vous aiment tant, ne peuvent rien faire. Il y a seulement l'intervention de Dieu qui peut faire quelque chose. Et l'intervention de Dieu, nous pouvons le trouver souvent quand nous jetons à genoux avec des larmes aux yeux en expliquant le Seigneur notre situation douloureuse. Et lui, il intervient, il étonne les gens. Il peut faire des choses que jamais on n'a jamais entendu parler depuis l'histoire du monde. Que jamais on peut, par des choses qui sont totalement impossibles et qui ne pourraient pas exister au niveau de l'imagination humaine. Et c'est là ce peuple commençait à chercher Dieu. Mais lorsque Mardoché, couvert de sacs et de la cendre, se présentait devant la maison du roi, et Mardoché ne peut pas entrer dans son état parce que c'est interdit pour un homme couvert de sacs et de la cendre, puisse pénétrer dans la cour intérieure du roi. Et
c'est comme si on peut dire humainement, malheureusement, à l'époque, Esther ne peut pas avoir accès au roi. Personne ne peut présenter dans la cour du roi et rester vivant si le roi ne lui tend pas le sceptre d'or. Esther, elle a pris une résolution. Elle envoya dire à Mardoché, écoute Mardoché, parce que Mardoché l'avait dit des paroles fortes. Ne t'imagine pas que toi seul pourrais échapper si ce massacre arrive. Mais tu sais, c'est peut-être pour cette raison que tu es parvenu à la royauté. Si tu ne veux pas agir, si tu te croises les bras, la délivrance surgira d'une autre manière pour les Juifs. Mais toi et la famille et ta famille de ton père, vous allez se terminer. Et Esther a pris la résolution de jeûner 3 jours, 3 nuits avant de se présenter devant le roi. Et il dit, si je dois périr, je périrai. Mais la seule chose, c'est de prier beaucoup avant d'y aller. Esther, après avoir prié 3 jours et 3 nuits, elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Il semblerait ce jour-là, c'est ce jour que Dieu a mis plus d'amour romantique dans le cœur du roi pour Esther. Cette prière qui a fait de l'effet sur le cœur de Dieu, et Dieu se dresse debout pour délivrer son peuple. Il a changé le cœur du roi à l'égard d'Esther. Et le roi, il a demandé à Esther, que je peux faire pour vous, pour toi, ma chérie? Et si ce n'est même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et c'est par ce moyen que Dieu arrive à délivrer Mardoché, Esther et son peuple. Et le jour où on devrait pendre Mardoché sur le bois qu'Aman lui avait tendu, ce jour-là, la prière du peuple de Dieu qui agit sur le cœur de Dieu a fait que le roi était tourmenté pendant toute la nuit. L'édit est déjà donné. Le lendemain, Mardoché sera pendu. Le peuple juif sera massacré. Mais ce soir-là, le roi ne pouvait pas dormir. Mais, étant dans l'insomnie, il a demandé par miracle qu'on m'apporte quelques livres dans mon archive. Des histoires anciennes, des choses passées qu'on peut lire devant moi. Les serviteurs du roi, peut-être Serge Sanson, ils ont apporté par hasard, mais c'est un miracle de Dieu. Un livre dans lequel on a écrit une histoire où Mardoché avait sauvé la vie du roi lorsque deux échansons a voulu porter la main sur lui pour l'assassiner. Et lorsque le roi a entendu cette histoire, et le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardoché pour le récompenser? Et le désessence ont dit, non, on n'a rien fait. Et c'est le moment où Mardoché entrait pour attendre le matin très tôt. C'est le moment où Aman entrait pour attendre Mardoché pour aller le pendre. Et c'est le Mardoché, c'est l'amant que le roi a recommandé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer?
Amon qui savait que c'était lui, parce que c'est lui qui a placé au-dessus après le roi.
Il n'y a pas d'autre comme lui que le roi pourrait honorer. Et il a fait un étalage pour les bonnes choses que le roi devrait se faire pour honorer cet homme. Et Ama dit, pour le roi honore une personne, il fallait mettre l'habit du roi, l'anneau du roi, le monter sur la monture du roi à cheval, et quelqu'un qui est grand dans la maison du roi et qui pourrait se tenir devant le cheval du roi et crier dans les places de la ville, voilà un homme que le roi veut honorer.
En expliquant ce récit, le roi dit à Aman, va faire tout ce que tu venais de dire à moi pour Mardochée, et rien n'échappe à ce que tu venais d'expliquer.
Oh, vous pouvez rendre compte la puissance de la prière. Vous pouvez rendre compte le pouvoir de la prière. Quand la prière est au cœur des événements, elle domine les situations. Parce que quand la prière est au cœur des événements, Dieu se lève pour délivrer son peuple. Dieu se lève pour faire voir aux ennemis des enfants de Dieu que Dieu est tout puissant, que Dieu est vivant, que Dieu est un Dieu de gloire. Personne ne peut pas atteindre sa puissance. Il est unique en son genre. Et c'est lui seul qui a créé le ciel et la terre par sa parole et sa puissance. C'est Dieu seul qui peut faire une telle chose pareille. Aman est tombé. Mardochée a été élevé. La honte, l'humiliation, l'assassinat et le massacre du peuple juif a été chassé, par la puissance et la grandeur de Dieu. Et le peuple de Dieu a été délivré.
Mais bien aimé, non seulement dans la Bible, il y a une sollicitation à la prière, mais cependant, il y a ce qu'on appelle la prière instante, la prière persévérante et la prière constante. La prière d'Esther, c'était une prière instante. Dieu ne devrait pas attendre. Son peuple est menacé, il faut qu'il s'élève pour délivrer son peuple. Donc, vous avez vu. Mais cependant, il y a d'autres cas où Dieu profite des temps de prière de son peuple, laisse son peuple souffrir, souffrir pour un instant, afin de jouir la communion. Parce qu'il n'y a autre moyen d'être en communion avec Dieu, de devenir l'ami de Dieu, de faire des expériences avec Dieu, si ce n'est pas par la persévérance dans la prière. On peut développer une amitié avec Dieu. On peut développer une intimité avec Dieu. C'est par la prière, en restant dans ses bras. Donc c'est pour cela, nous pouvons d'autres fameux versets dans la parole de Dieu, tels que le psaume 105, qui nous dit, dans le psaume 105, le verset 4, Somme 105, verset 4, nous dit, « Et recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Et le Somme 25, le Somme 25, verset 15, le psalmiste du Somme 25, encore le psalmiste David, il dit, « Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. » Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel et il fera sortir mes pieds du filet. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré ce sujet? Il me l'a inspiré depuis quelque temps de cela. Mais c'était après le tremblement de terre haïtien que Dieu m'avait inspiré ce sujet. Et dans quelles circonstances il m'avait inspiré ce sujet? C'était le lendemain du tremblement de terre, où il y avait dans quelques instants 500 000 morts, parce que les journaux n'ont pas dit, ils n'ont pas dit tout, sans compter ceux qui sont, qu'on n'a pas trouvé sous les décombres. Des gens blessés étaient réunis dans le terrain où se trouve l'église évangélique La Vie en Abondance, dans la région de Grécier, dans l'ouest d'Haïti. Des blessés et des cadavres. Et j'ai passé 3 jours à dormir parmi les cadavres, des gens qui se décèdent devant moi. De cette situation, de voir des atrocités pareilles, c'est que, malheureusement, la veille du jour, ma voiture n'avait plus de carburant. L'aiguille était à plat, comme on dit, et dans, en anglais, en Haïti, et c'était empty. Il n'y a plus de carburant dans la voiture. Et dans l'après-midi du mardi, en rentrant, je voulais faire un peu de carburant. Mais comme je n'avais pas assez d'argent, il me reste quelques 300 et quelques dollars pour avancer à des ouvriers de maçon qui étaient en train de poser le calage dans ma maison ou dans une chambre de bain. Alors, je ne voulais pas dépenser l'argent. J'ai dit, bon, je vais rentrer avec la voiture sans carburant. Et demain, Dieu me montre comment faire pour avoir un peu d'argent pour mettre le carburant. Surtout, demain n'est pas à nous. C'est le jour que nous vivons, que nous connaissons les choses. Donc, demain, c'est à Dieu. C'est par nous. C'est pour cela, souvent, on dit, demain, Dieu voulant. Demain, si Dieu le veut. Et à 4h, 16h45, la terre a secoué. Dans un instant, des centaines de milliers de morts. J'arrive à échapper de ma maison en voyant des murs, des clôtures qui entourent ma maison qui tombent, et je suis échappé miraculeusement avec mes enfants et quelques collaborateurs qui étaient chez moi. Nous avons passé toute une partie de la nuit dans le noir. Nous entendons, dans quelques secondes, nous voyons des gens qui passent avec des bras arrachés, des yeux, comment je peux dire ça, des yeux qui ont perdu un œil, des sangs partout. Et quelques instants, quelques heures, lorsque les répliques se font un peu plus de chaque 10, 15, 20 minutes, nous avons pris la voiture. Je l'avais essayé, puisqu'il n'avait pas de carburant, de se rendre à l'église. Le lendemain matin, des gens accourent vers moi. Des enfants qui ont des os cassés dans les jambes de plusieurs endroits. Des blessés. Des atrocités. Des choses écœurantes. Des choses que vous n'arrivez pas vous-même à s'imaginer. Et c'était pour la première fois de toute ma vie que j'avais vu de telles atrocités. Parce que moi, je vis des atrocités, des morceaux de crâne qui se traînent, des morceaux d'os humain, des chairs humaines qui se traînent partout. Et même des crânes des enfants de mon église qui ont l'habitude de venir. Des gens courent vers moi, pasteur, comme on dit chez nous, sauve mon enfant, sauve ma maman. On devrait aller dans un hôpital pour trouver des premiers soins. Les sangs qui jaillissent, pas de soins. Après quelques heures. Mais je dis, mais comment je peux faire pour sauver ton enfant, pour sauver ta maman, pour sauver ton papa? Ma voiture n'a plus de carburant. Est-ce qu'une voiture peut marcher sans carburant? Après avoir trouvé la demande de beaucoup de gens qui me demandent de sauver leurs proches pour les amener dans un hôpital, et puis je refuse. Et j'entends la voix de Dieu qui me parlait. Mais toi, tu prêches tout le temps de la prière. Tu parles toujours de la foi. Mais la prière, la foi, c'est dans des circonstances pareilles qu'on doit s'en servir. Pourquoi ne pas prier? Essayer de démarrer la voiture. Saint-Esprit, lorsque j'ai entendu la voix qui parle fort dans mon cœur, qui parle fort dans mon esprit, et je demande au jeune homme qui était tout près de moi et les parents des gens de venir à moi. Et je leur ai dit, écoute, on va prier. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, priez. Nous allons imposer les mains sur la voiture. Nous allons prier sur la voiture. Nous allons démarrer la voiture et on va partir avec les blessés. Et après avoir prié pour quelques minutes, nous prions. Il y a des gens qui pleurent, des larmes aux yeux de voir des atrocités. Nous prions. Et puis je passe ma clé, paf, le moteur a démarré. Et puis j'ai dit, montre les blessés, montre, il faut monter les. Il dit, venez avec les blessés. Et puis on part dans une région qui s'appelle Kafou pour trouver le premier hôpital. Nous sommes arrivés à Kafou avec la voiture sans carburant. Je ne sais pas combien était le réserve, mais depuis la veille, ma voiture était sans carburant. Je l'avais amenée dans la maison, puisque en face de moi, il y a une station d'essence. Mais après le tremblement de terre, il y a des stations d'essence qui ont été éclatées de feu. Tous étaient fermés. Et en arrivant dans cet hôpital, nous trouvons que la barrière est verrouillée tellement qu'il y avait de cadavres et de blessés dans la cour de l'hôpital. On n'en peut plus. Devant la rue, dans la rue même, c'est des cadavres et des blessés qu'on étale partout dans la rue devant l'hôpital. Et puis on a retourné chez nous encore avec la voiture sans carburant. Nous avons pu passer dans trois autres endroits pour trouver un hôpital. Nous n'avons pas trouvé du secours. Et nous nous sommes retournés avec une personne qui est infirmière, qui avait quelques trucs chez lui pour venir sur le terrain pour prendre les soins des gens. Et la première expérience, c'est que la voix de Dieu m'avait dit, pourquoi tu prêches toujours de la foi et de la prière, et dans de telles situations, c'est la prière et la foi qui peut vous délivrer. Quand la prière est au cœur des événements, Dieu change les situations. Mais pour finir, mes bien-aimés, le lendemain, mercredi, jeudi, on a pu trouver carburant. Et nous avons beaucoup prié en passant par des montagnes. Et pendant que nous passons par les montagnes, là, il y a des répliques qui déboulent des gros cailloux vers le bas. Et par la prière, en citant le nom de Jésus, nous voyons les cailloux qui passent à l'arrière, les cailloux, les grosses pierres qui passent à l'avant. Pas même un caillou n'a pas touché ma voiture. La prière au cœur des événements, Dieu peut changer les situations. Cependant, quelques jours après, 2 jours après, j'avais donné un sac de riz et un peu d'huile à 60 personnes de mon église qui étaient sous une tente. Et le sac de riz a terminé, il reste une poignée de riz. Pendant que je vais amener d'autres blessés dans une ville de province à 5 heures de route de voiture, les jeunes de mon église viennent avec le petit poignet de riz, disent non, avec un peu d'huile, quelques onces d'huile sous un galon. Les jeunes, les femmes de l'église m'ont dit non, pasteur, tu ne peux pas partir parce qu'on n'a rien à manger. C'est toi qui devrais être là avec nous pour te débrouiller, pour que tu puisses nous donner à manger. Mais il dit, comment je peux vous donner à manger? J'avais seulement un sac de riz, je vous l'avais donné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois amener les gens blessés. Et pendant que je vais partir, la voix me dit, mais tu savais, Élie a prié pour très peu de farine que la veuve avait, très peu d'huile, Et Dieu a permis que la farine et l'huile n'a jamais terminé. Et on a prié. Je dis, amenez le peu de riz qui reste, amenez l'huile qui reste. On a prié sur le sac. Et j'étais allé dans le sud pour amener les gens à l'hôpital. Et j'étais parti dans l'église du sud d'Haïti, de Gérard, qui est à peut-être à trentaine de kilomètres avec la ville. Et j'étais allé pour dormir. Le lendemain matin, j'avais cherché la veille le riz, la nourriture partout dans le quartier. Il n'y en avait pas. Pas de secours. Les organisations étrangères ne peuvent pas venir. Il n'y a aucun moyen. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une opportunité d'arriver à la République dominicaine avant de pénétrer le territoire haïtien, puisqu'il y avait des ponts qui ont été éboulés, il n'y a pas d'endroit pour partir, sauf les hélicoptères des armées qui peuvent amener quelque chose à manger. Et quand j'avais prié la veille, le lendemain, je prie à 9h du matin, je jeûnais. Parce que je dis, en tant que responsable de plusieurs églises, de voir mon peuple qui souffre, de voir les gens qui ont faim, de voir les gens qui sont blessés, je demande à Dieu, que ferai-je? Parce que j'avais prié sur le riz, il m'avait resté pas beaucoup, un petit peu de riz pour juste satisfaire 2 ou 3 personnes. Alors qu'on avait 60 personnes sous cette tente. Mais le lendemain, pendant que je priais, vers 9h du matin, il n'y avait pas de réseau. À mon grand étonnement, mon téléphone fermé. Je me dis, d'où vient ce réseau? Mon téléphone a sonné, d'où vient ce réseau? Et puis lorsque j'ai dit allô, c'est un homme, un évangéliste, qui habite dans un endroit de l'autre côté, où le tremblement de terre n'a pas fait trop de dégâts dans sa région. Qui m'apportait, je ne sais pas où il a trouvé, ce cargaison de nourriture, 8 gros sacs de riz, de 25 kilos par sac, beaucoup de sacs de maïs, beaucoup de gallons d'huile, beaucoup de sauce de tomate qu'on appelle ketchup ici, beaucoup de caisses de spaghettis. Beaucoup de savon, des poudres à lessive. Il apporte tellement de choses dans un mini camion rempli de nourriture pour que mon peuple puisse trouver quelque chose à manger. Et puis de mon cœur, il dit, le Seigneur a multiplié la farine de la veuve. Et ne fait pas que la farine soit terminée, mais il a agi pour moi d'une autre manière, parce que dans mon temps, il y a des camions qui peuvent m'apporter de loin cette nourriture. Mais bien aimé, je ne sais pas pour terminer, quel genre de personne qui traverse une circonstance, une situation difficile, mais avec la prière, vous allez dominer la situation. Avec la prière, Dieu agira. Mais vous savez, parfois, on a des problèmes qui peuvent empêcher à Dieu de nous écouter ou d'exaucer notre prière. Mais c'est dans la prière que Dieu va nous révéler les empêchements. Les empêchements. Mais quand la prière est au cœur des événements, Dieu contrôle les situations. Avant de passer aux nouvelles de l'œuvre, j'aimerais prier. D'abord, j'aimerais prier. Et quelqu'un qui traverse une situation, qui a besoin de la prière, peut se mettre debout, là où il se trouve, et on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Dans ta grandeur, dans ta puissance, tu nous montres beaucoup de choses. Mais souvent, tu attends beaucoup de temps pour nous exaucer. C'est parce que c'est à travers les situations où nous avons besoin de toi. Tu attends que notre amitié, notre intimité puisse se développer par la prière avant de nous exaucer. Parce que c'est dans ces circonstances que nous pouvons te trouver. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir chacun de nous ce matin. qui viennent d'entendre cette parole. Et tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont besoin de ton intervention. Parce que lorsque la prière se trouve au cœur de notre situation, au cœur de nos problèmes, au cœur de nos événements, tu changes, tu révolutionnes les situations. Tu fais des miracles que nous n'attendions pas. Seigneur, merci ce matin d'exaucer, de toucher, de délivrer. Et que cela change pour chacun de nous qui prie et confirme cette parole ce matin. Parce que quand ton peuple prie, quand tes serviteurs prient, Seigneur Dieu, tu fais des choses, des miracles que jamais, Seigneur Dieu, que nous n'attendions pas. Touche, délivre. Amen, Seigneur Dieu, des surprises, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos situations et dans tout ce que nous pouvons avoir confronté du amour. Que ton nom soit loué. Nous te remercions d'avance d'avoir confirmé ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Juste avant de quitter l'estrade, cette année, je peux dire, grâce à des prières des gens comme vous, nous avons fait des progrès. Mais ce qui est étonnant, c'est l'année où notre pays traverse encore des situations difficiles avec des émeutes violentes. Il y a un trouble politique actuellement très difficile en Haïti. L'inflation augmente, le taux du dollar augmente et les gens ne savent que faire. Mais cependant, comme vous savez qu'en 2016, il y avait un ouragan qui avait ravagé le sud d'Haïti et qui a emporté les toitures, écoles, presbytères et tout ce que nous avons à Gérard dans le sud d'Haïti. Et comme vous savez que nous avons trois églises, l'église de Grissier dans l'ouest, l'église de Gérard dans le sud et l'église de Découzé dans le sud-est. Et peut-être vous pouvez voir en premier lieu, dans la première image, ces trois églises. Et l'église de Gérard et l'église de Grissier réunissaient l'église de Gérard. On a débuté avant dans un abri provisoire en paille de cocotier et Dieu a permis que nous avons construit quelque chose qui a été ravagé par le cyclone. Et l'école se faisait là. Mais en 2014 et 2013, Dieu avait fait un miracle pour l'école de Gérard. J'ai un ami en Suisse que n'a jamais vu, mais qui m'avait fait connaissance avec son papa. Je ne connais pas l'église de son papa, mais en priant, après avoir passé beaucoup d'années de problèmes, et en 2013, il s'est soulevé une discussion dans, comme on m'avait expliqué après, dans le conseil de l'église qui allait faire une rénovation. Et qu'on disait que beaucoup dans le conseil dit que c'est pas important, l'église est tout à fait neuve. Cette discussion a porté que le papa de mon ami, qui me soutenait un peu, a parlé avec son église que moi je connais un malheureux haïtien qui vient tout le temps en Suisse, que personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des cas. Lui, il a une école qui s'est réunie dans une grande salle, etc. Il fait beaucoup de travail dans son pays. Alors, comme l'ancien discutait comme ça, cette église allait faire quelque chose pour deux pays en Afrique. Ils ont introduit Haïti dans leur projet. C'est par ce moyen qu'on arrive à faire, à construire l'école de Gérard. Et deux ans après, la toiture a été emportée. Et cette année, nous avons reçu de cette église qui jamais prêché, j'étais allé seulement une fois pour les remercier de ce qu'il avait fait en 2013. Nous avons d'abord prié et trouvé un crédit pour faire sortir l'école sous des bâches, dans le soleil, dans la pluie. Nous avons trouvé un crédit pour commencer la construction et cette église nous a envoyé 10 000 francs. Et avec d'autres miracles, nous avons pu poser cette toiture en béton sur l'école de Gérard, cette construction. Mais avec l'ingénieur qu'il avait fait, il a mis des parties pour la cuisine, puisqu'on avait commencé une cantine au mois de septembre. Nous allons donner un plat par jour, parce que moi, quand j'étais à l'école, la famine m'a empêché de suivre les cours. La faim m'a empêché d'être efficace dans mes études. Et c'est par le moyen de plat que les sœurs catholiques d'une école de Saint-François d'Assise dans le sud d'Haïti m'ont donné un plat par jour. C'est avec ce plat parfois que j'arrive à vivre pendant 15 jours. Il n'y a plus de nourriture dans la maison de ma maman. Donc, en se souvenant de toutes ces choses, j'aimerais donner un plat par jour à l'école de Gressier et à l'école de Gérard. Donc, on a des moyens. Donc, Gressier se trouve tout près de Léogane et Port-au-Prince, Gérard tout près de Caille et Décousé tout près de Chapelle. Et voilà, donc on a pu construire ça. Maintenant, nous avons de la place pour commencer des cours secondaires au mois de septembre. Et ici, c'est la cour de l'église de Gressier. Et c'est ce que nous avons fait en 2017, c'est hangar où l'école de Gressier a un endroit pour se réunir, pour effectuer les cours. Et l'école de Gérard aussi vient de poser sa toiture. Donc, Dieu a fait grâce et nous avons vu dans l'église de Gressier, c'était conférence annuelle des adolescents et des jeunes. Nous avons des activités spirituelles dans cette église. Je ne sais pas, donc il y a tellement d'enfants dans cette église. Nous étions réunis, les enfants ont chanté, ont dansé, ils ont donné gloire à Dieu. Si on peut passer encore des autres photos, ils ont dansé la louange du Seigneur dans les couloirs. Malgré les situations, mais on voit un peuple qui cherche Dieu et qui aimerait avancer plus dans la foi chrétienne. Ça, c'était la fête annuelle de la grande chorale de l'église. Ils ont organisé aussi des moments de prière, des moments de méditation. Donc, la chorale de l'église se compose aux environs 100 personnes. Mais il y avait un maestro qui l'avait diminué, il y avait des problèmes de maestro, beaucoup sont découragés. Maintenant, on se réduit jusqu'à 70 personnes. Donc, la chorale, la grande chorale de l'église. Donc, après, ce sont les photos de leur programme. C'était le dimanche matin, le jour de la commémoration de la fête de la chorale de l'église. Donc, si ça, c'est la direction de l'école de Gressier, c'est la directrice qui est en train de peut-être de chercher quelque chose, un document. Et si on avance encore, on voit les élèves. Pourquoi ils se tenaient debout ici? C'est comme ça chez nous. Avant les classes, il faut monter le drapeau. Après le drapeau, ils devraient aller dans la salle de classe. Ils doivent prier d'abord. Et comme dans notre école, il y a des enfants de toute la couche sociale, près de Vaudou, et quelle que soit leur religion, donc ils peuvent venir dans notre école. Mais par ce moyen, nous avons formé beaucoup de petits chrétiens aussi. Beaucoup ont reçu Jésus très tôt dans leur âge, parce que dans notre école, chez nous, c'est faisable. On peut enseigner la parole de Dieu aux enfants. Nous prions avec eux, nous partageons un verset biblique ou bien une histoire biblique, parfois même avec des images, avant de commencer les cours. Et par cela, c'est par ce moyen que beaucoup d'enfants fréquentent aussi notre école aussi. Donc voilà, c'est des salles de classe où les enfants sont entrés. C'est après la prière, on débute les cours pour ces adolescents. C'est des salles de terrasse ouvertes, donc ça a deux murs. C'est comme ça qu'on fait, parce que ça, c'est un abri qu'on arrive à faire. Donc, c'est pas avec les normes.
On n'a pas monté les murs jusqu'en haut.
Et voilà, on va passer dans le sud. Et en passant dans le sud, les cailles, c'est ce que le Seigneur nous permet de réaliser.
On va même commencer des cours professionnels, donc c'est-à-dire stage pour les bénisteries, des cours de couture pour les jeunes filles, la cuisine pour les jeunes filles, et aussi on va commencer des cours de ferronnerie pour les apprendre à souder et des fers, afin qu'ils puissent passer. Les jeunes à Jéra, ils se laissent seulement dans la rue, ils fument, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc nous voulons les encadrer, leur apprendre un métier pour qu'ils puissent être indépendants.
Donc voilà, c'est ce que nous avons. Ça, c'est l'état de la construction de l'école de Jéra après le passage de l'ouragan Matthieu. Donc tout a été emporté. Il y a des arbres qui ont tombé sur des briques, mais Dieu nous permet de remettre tout en place. Et c'est un peu à l'intérieur, après avoir posé la toiture, c'est la grande salle de réfectoire de l'école de Jéra,
où 300 enfants peuvent s'asseoir pour manger.
La grande salle de réfectoire. Et puis, c'est vu de l'école à l'arrière, donc maintenant qui est arrivé au niveau école primaire,
ce qui va arriver au niveau école primaire, secondaire et professionnelle.
Donc, merci pour vos prières, si on avance. C'était l'inauguration de l'école de Gérard. Avant, c'est pas fini. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de calage. Mais déjà, les enfants étaient heureux ce jour-là. Ils ont dansé, ils ont récité des poésies, parce que maintenant, ils ont un endroit pour s'asseoir pour l'école et s'asseoir pour manger. Et puisque l'église a été aussi détruite, c'est dans cette salle de réfectoire que l'église est réunie aussi pour le culte de l'après-midi ou le dimanche. C'était le jour de l'inauguration, c'était le 8 avril dernier, l'inauguration de l'école, du local de l'école de Gérard. Donc c'est bloc sanitaire que nous avons construit. Avant on avait des latrines, et puis la latrine a été effondrée pendant l'ouragan. Maintenant on construit des toilettes, ce bloc sanitaire qui va constituer que des toilettes hygiéniques, parce que les latrines ça donne le choléra. Donc voilà, donc Dieu nous a permis de faire tous ces progrès. On a peut-être deux photos pour terminer avec des sujets de prière. Donc c'est là on a posé la toiture du bloc sanitaire, et en plus encore si on avance, on va voir des sujets de prière, donc sujets de reconnaissance et d'autres prières, des choses à effectuer.
Merci pour votre attention, merci d'avoir prié pour nous, et merci aussi de continuer à prier pour nous et pour continuer à lever les défis qui se tiennent devant nous.
Merci pasteur pour ce beau message, hein, l'importance de la prière, que la prière puisse aussi ouvrir nos cœurs et que Dieu puisse sonder nos cœurs, nous conduire là où il nous attend, et qu'il puisse changer les circonstances aussi si nous passons par des temps difficiles. Et merci pour ces bonnes nouvelles d'Haïti, que Dieu puisse continuer à bénir cette œuvre, et nos salutations fraternelles à nos frères et nos sœurs là-bas, que voilà, on est un dans un lien d'amour, et on se réjouit de voir l'œuvre du Seigneur grandir comme ça, surtout auprès des enfants aussi et des adolescents. Alors, il nous reste un chant, je crois qu'on va le prendre. Je vous dis juste les quelques annonces. Il y en a une qui est un petit peu moins habituelle, parce qu'on a un anniversaire. Il y a notre sœur Ruth qui fêtera le 11, c'est juste, qui fêtera son anniversaire le 11. Alors, on veut se réjouir aussi pour elle. On lui chantera un joyeux anniversaire après. Et puis après, vous connaissez nos annonces habituelles. Je pense que j'ai pas besoin de les redonner pour cette fois. Et on va tout de suite passer au dernier chant. Merci.